Bienvenue tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, la capitale américaine. Attachez vos ceintures de sécurité, on décolle ce soir avec de la bonne musique des îles, Island Music. Ah oui, je parle de Guadada, je parle de Barbados, je parle de Haïti chérie, je parle de Punta Cana. Voilà, attachez vos ceintures les amis, on décolle ce soir avec de la bonne musique, mais aussi on finit avec notre sujet de la semaine. Let's go! Et bien sûr, on finit aujourd'hui avec de la bonne musique, des musiques, je le disais tantôt, ouais, pourquoi pas finir avec... Danza Kuduro, vous avez bien compris, avec Don Omar et Lucenzo et tous ces grands de la musique. Et bien sûr, on est ensemble, les amis. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer nos amis qui sont en train de nous capter ce soir. Ils sont nombreux à nous capter partout, partout, partout. Et ils disent, Roger, là, nous sommes avec toi. Et bien sûr, vous êtes avec moi. On va découler. Je vois déjà les messages de Akali, je vois Soumaïla, Kone, je vois tous nos amis. En tout cas, qui sont scotchy chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Et là, je vais parler même de Eva Dakar, elle est déjà prête. Ouais, je te vois, Eva. On est ensemble, let's go avec Danza Kuduro. C'est donc Omar et bien sûr Lucenzo. Aïe, aïe, aïe. Danza Kuduro. Eh bien, c'est comme ça qu'on décolle ce soir, hein, avec cette vitesse haute altitude. Joindre à nous, attachez bien vos ceintures de sécurité parce que ce soir, c'est high volume. Aïe, aïe, aïe. Êtes à Bandal. Merci beaucoup aux amis de Bandal et nos amis qui nous captent bien sûr à Kintampo Magasin. En tout cas, Washington DC, c'est comme ça qu'on bouge ce soir. Spéciale salutation à un monsieur qu'on appelle Nati Locole. Coucou PM Papi Mbouma à Kinshasa, Mokili Ayawe. Mais c'est le week-end, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Quand il fait beau chez vous, je sais pas moi, la piscine, la plage, le soleil, comme ça se passe dans Island, Guadada, Punta Cana. Et d'ailleurs, dans deux semaines, je serai dans les îles. Hein. Ouais, je serai à Punta Cana. Ah oui, oui, Dominica Republic. Kuduro. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Aïe, aïe, aïe. Danza Issa Kuduro. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. De la bonne musique, bien sûr, chaque soir entre 20h et 21h temps universel. Merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter ce soir à Haïti, chérie. Et bien sûr, vous savez qu'ils sont nombreux à Haïti, chérie, à nous capter. Et on leur dit merci infiniment, infiniment d'ailleurs. C'est comme ça qu'on bouge avec de la bonne musique aussi qu'on passe ce soir. Joey Dwight Filet. On écoute.
Faisons nous les déclarons nos pensées. Mais moi je préfère commencer. Ce que mon tape nous met en danger. Qui ne nous permettent pas d'avancer. Ils te diront que je suis pas sincère. Il y aura des messages bizarres dans tes commentaires. Baby, faut que tu sois forte mentalement. Et on a dit ça hier. Nous en avons tous à faire des choses. Ma vie, tu vas mettre une barrière. Il y aura toujours quelqu'un pour s'opposer à l'avancée de notre carrière. Et si seulement tu m'accordais un peu de confiance pour partager avec toi j'ai envie de faire des choses. Pourquoi pas nous marier?
Qu'on appelle bien sûr compas ce soir. Merci beaucoup à vous les amis et ceux-là qui sont à Kingston, Jamaica. On va écouter Roja, ouais, c'est Egyptian qui nous chante. Tell me, tell me, tell me.
Can you give me the kind of world we ever get in my head?
I can't hear you.
You're the one who just quit.
Okay.
When the things all around.
Okay.
Can you give me the kind of world?
It's Egyptian straight from Kingston, Jamaica. Okay. Pour ceux-là qui sont à Bukavu, à Goma, ceux-là qui adorent Egyptian, qui ont demandé bien sûr ce morceau, parce que quand même, hein, ça date, mais ça fait bouger jusqu'à aujourd'hui.
Y'all yeah, just want to squeeze ya, yeah. Put the things all around ya. Y'all yeah, give me the tightest world we ever get seen in my life. Oh Lord, like a fast pipe on the road, boom 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 boom. Just for the back of here, boom 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 boom. Give me man up on that, the bad boom boom boom. When I play last one time, it come to boom boom. Me out of control, I'm one fancy one in high school. System open more and still stay grown. I still be motivated. Pull me arms, I right around ya. Can you give me tight with what we ever get in my life? Can you help me just squeeze ya? Put me arms right around ya. Can you give me tightest what we ever get in my life? Squeeze ya around ya. Tightest what we ever get in my life. Behind them try and be no care. They take it anytime, anywhere. In a despair, such a fear. And as a woman, I will be there. Me want a girl to take care of me. Me want a girl to wine for me. If you feel it, and if you feel it, show me that you don't run. Y'all me want to be all you. Put me on tight around you. Y'all give me tightest what me ever can see in my life. Y'all me just want to squeeze ya, put me things all around ya. Y'all you give me tightest what me ever can see in my life. Squeeze ya around ya.
D'écouter Aram Chou, une émission de Vue Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Merci aux amis qui sont en train de nous capter partout dans le monde et spécialement nos amis qui nous captent aussi sur les réseaux sociaux et bien sûr nos amis qui sont aussi en Afrique et partout dans le monde. Merci infiniment, c'est votre émission, Roger Moutou, la voix de l'Amérique dans Aram Chou. Et vous savez, cette semaine, on a parlé d'un sujet très important et vous étiez nombreux à répondre à cette question. J'ai vraiment étonné de voir l'engouement autour de la question de la semaine avec tout ce qui se passe ici à Washington, la capitale américaine. La question, c'était de savoir où vont les ressources minérales africaines, comment les pays africains peuvent-ils s'assurer que leurs ressources minérales ne sont pas seulement extraites, mais aussi transformées localement pour générer plus de valeur pour leurs économies, au lieu toujours d'être exportées ou importer, je ne sais même pas quoi utiliser. C'était ça la question de la semaine, parce qu'on le sait tous, on l'a dit avec Jean-Louis depuis le début de cette semaine, que l'Afrique abrite de réserves considérables de minéraux essentiels pour les technologies à faibles émissions de carbone, comme le cobalt, le manganèse, qui offrent aussi des opportunités de croissance économique et de développement. Mais beaucoup de ces jeunes Africains qui m'appellent disent, Roger, mais non, on ne sait même pas où vont nos ressources. Merci infiniment à vous tous qui avez répondu à cette question. Alioune Sall nous a écrit du Sénégal pour dire, Roger, les pays africains doivent investir massivement dans les infrastructures industrielles locales pour transformer les matières premières sur place. Cela passe pour la création de zones économiques spéciales dédiées à la transformation minérale. Merci beaucoup à Eric Twangwebe qui nous écrit du Cameroun. Roger, il est impératif de mettre en place des partenariats publics privés entre les gouvernements africains et les entreprises locales pour favoriser la construction d'usines de transformation au lieu de dépendre uniquement des investisseurs étrangers. Merci à Fatoumata Diallo qui nous écrit de Guinée. Conakry, la Guinée, avec ses vastes réserves de bauxite, Roger, doit développer des raffineries locales pour produire de l'alumine et de l'aluminium et ainsi éviter d'exporter la bauxite. Mais écoutez, en tout cas, nous on a réussi aussi un expert en finance, hein, et monsieur Junior Mbouyi qui est passé nous voir ici à VOA ce matin, et on lui a posé aussi la question de la semaine. On va suivre un peu cet entretien avec, il est aussi écrivain, je rappelle, on va suivre un peu ce qu'il nous a dit. Suivre.
Bonsoir et bienvenue sur VO Afrique. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur notre plateau un expert financier de renommée internationale, Junior Mbouyi, avec une solide formation en économie et en finance. Il est diplômé d'un MBA en finance de l'École supérieure des gestions et d'un DES en commerce et affaires internationales de la Sorbonne. Actuellement candidat à l'exécutif MBA de l'INSEAD, si j'ai bien dit ça, sinon l'une en tout cas des trois meilleures écoles de management au monde. Junior Mbouyi apporte plus de deux décennies d'expérience dans l'accompagnement des institutions financières internationales et des banques d'investissement sur des questions complexes de gestion et des risques de réforme réglementaire. Fondateur du GPJ Consulting Partners Group, un cabinet de conseil stratégique implanté dans plus de 10 pays. Il supervise une équipe de 180 collaborateurs répartis à travers le monde, de la République démocratique du Congo à la France, en passant bien sûr par Hong Kong et ici aux États-Unis. Junior Mbouyi est également un acteur actif, en tout cas dans la communauté internationale, participant aux journées nationales de la diaspora et de l'Afrique sous le patronage du président français Emmanuel Macron, et occupant des rôles clés au sein de la Chambre de commerce franco-indienne et du Centre africain de veille et d'intelligence économique basé à Bruxelles, avec une vision en tout cas claire pour le développement économique de l'Afrique. Il aspire à renforcer la stabilité bancaire, en tout cas pierre angulaire de l'activité économique, de l'investissement et de la lutte contre la corruption sur le continent. En tout cas, on dit bienvenue à notre invité de ce soir, Monsieur Junior Mbouyi, et merci en tout cas d'être avec nous sur VO Afrique.
Bonsoir Roger. C'est un honneur aussi pour moi d'être reçu ici dans les plateaux de VOA Afrique.
C'est la première fois?
C'est la première fois, tout à fait, sur le plateau. Mais bon, ouais. je viens régulièrement aux États-Unis.
Ouais, ouais.
Donc, pour moi, c'est une première de vous découvrir ici.
En tout cas, pour nous, c'est un honneur. Qu'est-ce qui vous amène ici, M. Mbouyi?
Alors, moi, je suis venu ici dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, qui ont lieu effectivement une fois par an. Donc, je viens effectivement parce que je travaille dans les institutions, pour les institutions financières. Et donc, mon objectif est d'être au plus près de la réalité, de ce qui se passe, comprendre aussi effectivement quels sont les grands mouvements qui vont être décidés et opérés. Washington, dans le cadre de cette assemblée, est au cœur des décisions, et il est important pour nous, qui accompagnons les banques de financement et d'investissement, d'être présents dans ces réunions annuelles et d'avoir aussi de la matière pour pouvoir, d'une part, reporter aux clients et puis mettre en place les réformes qui vont être décidées ici lors de ces comités.
Effectivement. Et c'est d'ailleurs très important. Nous allons revenir là-dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous avons aussi invité ici. Mais j'aimerais qu'on puisse d'abord parler de votre ouvrage que j'ai vu récemment. Et j'aimerais vraiment tout lire, mais je n'ai pas eu la chance de tout. Mais j'aimerais qu'on en parle parce que vous parlez de cette puissance qu'est la RDC. Dans votre livre, vous affirmez que la première ressource de la RDC est son peuple, ce qui est très très important. Et non seulement ces richesses naturelles que tout le monde connaît. Quelle action concrète proposez-vous pour renforcer les compétences et le potentiel de cette jeune population congolaise?
Alors, vous savez, effectivement, la population congolaise, c'est une population qui est jeune, dynamique, avec qui représente en fait 60% de la population. Et si on regarde les statistiques à horizon 25 ans, on va avoir une population qui va atteindre 200 à 240 millions d'habitants. Donc, c'est une population qui est jeune, qu'il faut éduquer, et pour ça, il faut donner les éléments nécessaires à cette population jeune pour qu'elle puisse être éduquée. Et on sait que pour bâtir une grande nation, il faut qu'une nation soit éduquée. Donc, la RDC devra mettre en place des réformes structurelles profondes pour accompagner cette formation et cette éducation des jeunes, si demain elle veut devenir une grande puissance au niveau panafricain, mais aussi au niveau mondial.
Au niveau mondial. Et en parlant du niveau mondial, vous parlez d'une RDC qui aspire d'ailleurs à devenir un leader de l'Afrique de demain. Ouais. Quels sont alors, selon vous, certains diront sûrement il y a des obstacles, quels sont les principaux obstacles que le pays doit surmonter pour réaliser cette ambition aussi grandiose?
Alors, dans un premier temps, moi je vous dirais, on va regarder le contexte géopolitique du continent africain et de la RDC. Et vous savez que Cheikh Anta Diop a dit souvent que pour qu'il y ait un développement économique, il faut qu'il y ait de la sécurité. La RDC est aujourd'hui minée par un conflit maintenant depuis deux décennies, voire un peu plus, à l'Est, qui empêche effectivement ce pays de se développer. Donc, quand on arrivera à stabiliser cette région, cette partie du Congo, avec effectivement, il y a aujourd'hui pas mal de protocoles qui ont été lancés avec le Rwanda notamment, qui suivent leur cours, le jour où cette région sera pacifiée, va être un élément qui contribuera au développement de la RDC. Secondo, comme vous l'avez dit, la RDC dispose de toutes les ressources naturelles nécessaires aujourd'hui au monde et à la transition énergétique. Et moi, ce que je dis, et la thèse que je soutiens, c'est que l'avenir du monde ne peut se faire sans le concours de la RDC aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part des dirigeants congolais, de la position qu'ils ont et des ressources qu'ils ont. Et à partir de là, la RDC doit s'imposer comme un leader à la fois régional, panafricain, et c'est aussi le souhait de tous les pays qui entourent aujourd'hui la RDC, pour que ce pays devienne en fait une vraie locomotive au niveau du continent et puis à l'échelle mondiale. Secondo, le gouvernement, l'État, doit mettre en place des réformes, comme je le disais, structurelles profondes pour réformer son économie, qu'il y ait plus de transparence dans la vie publique, et aussi faire en sorte qu'il y ait un climat des affaires propice à l'investissement, à l'attraction des IDE, donc des investissements directs étrangers, pour générer de la croissance.
Très important. Votre retour, M. Mbouillant, RDC, en tant qu'entrepreneur, citoyen, est un parcours à la fois personnel et professionnel. Comment votre propre expérience a-t-elle influencé votre vision pour l'avenir de la RDC et les solutions même que vous proposez dans ce livre?
Alors, si vous voulez, moi, j'ai eu l'opportunité, par ma carrière, de travailler dans tous les continents, pour les plus grands établissements financiers au niveau mondial. Et ces péripéties, ces voyages, en fait, toutes ces pérégrinations m'ont permis effectivement d'avoir un œil, un regard sur ce qui est fait ailleurs. Et légitimement, ça m'a interrogé, ça m'a posé des questions. Pourquoi on a des pays où je suis moi-même intervenu, comme par exemple dans le sud-est asiatique, qui dans les années 60, au moment de nos indépendances, avaient 30 ou 40 ans de retard économiquement et industriellement par rapport à l'ex-Zaïre, donc la RDC. Comment ces pays se sont développés? Quels sont les ingrédients qu'ils ont mis? Si je prends l'exemple, par exemple, d'un pays où moi j'ai travaillé quelques années, qui est Singapour, qui est dépourvu de ressources et qui aujourd'hui est l'une des puissances économiques mondiales et qui attire effectivement les investissements étrangers. D'ailleurs, on y voit que toutes les grandes banques y sont implantées. Alors, donc, légitimement, comme je vous le disais, je me suis posé la question par rapport donc à la RDC, en essayant en fait de prendre une focale large par rapport à mon expérience professionnelle mais aussi personnelle et qui m'a permis en fait de pouvoir dresser en fait quelques lignes ou quelques axes de pistes d'amélioration qui pourraient être insufflées à la RDC pour d'une part assainir son économie et se positionner clairement comme un leader, car elle a tous les atouts aujourd'hui.
Très important. Nous savons tous, on a parlé aussi de cette jeunesse, une jeune population en Afrique, mais aussi en RDC en particulier. Vous deviez résumer en quelques mots votre message principal pour la jeunesse congolaise, qui aspire d'ailleurs à construire un avenir meilleur pour leur pays, que leur diriez-vous?
Je dirais qu'il faut que cette jeunesse croie en ses rêves. Il faut que cette jeunesse continue à se former, se donne les moyens, parce que l'État, bien entendu, doit aussi être une composante de l'éducation et de la formation de nos jeunes, mais je pense que l'État n'est pas le seul acteur qui doit intervenir. Donc, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de cette population-là, qui doit aussi se motiver et croire en son destin et le prendre entre ses mains. En fait.
Pour finir un peu ce sujet-là du livre, vous avez mentionné la sécurité en RDC et cette population à qui je parle chaque jour dans mes émissions. Perd espoir que cette partie de la RDC, l'est de la RDC, qui est attaquée à cause de ce minerai, d'après les Congolais. Pensez-vous qu'il y a espoir qu'il y aura la paix dans ce coin de la RDC et le Congo se reverra un jour?
Alors, ce qu'il faut, il ne faut pas perdre espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même souligner les efforts qui ont été consentis par le gouvernement actuel pour lancer différents processus de paix. On voit que le président Tshisekedi est à l'initiative de pas mal de choses là-dessus. Donc, et ce qui est important, je pense que pour qu'on arrive à cette situation de paix, la problématique de la RDC en tant que telle ne doit pas être considérée comme une problématique congolaise. C'est une problématique africaine. Et c'est pour ça que je pense que les pays africains doivent se réunir autour de la table, mais vraiment sérieusement, parce que si le Congo décolle aujourd'hui, si on pacifie cette région, mécaniquement, ça va profiter à tous les pays en fait avoisinants, notamment à la région des Grands Lacs et puis au reste du Congo. Pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec des homologues à moi venus de Guinée et qui me disent clairement nous avons besoin de vous pour décoller. Donc c'est un message qui est clair, qui est un message qui est fort, et c'est pour ça que la problématique de la RDC est une problématique africaine.
Très important, problématique africaine. Chaque semaine, dans mes émissions, monsieur Mbouillon, on a une question de la semaine. Cette semaine, ça tombe bien parce que vous êtes là, un expert en finance. Cette semaine, nous posons cette question qui concerne toute l'Afrique. Hein. L'Afrique ne doit plus, enfin, doit plus tirer profit de ses richesses. D'après beaucoup de ces jeunes Africains, ils pensent que ce n'est pas le cas. Vous l'avez dit vous-même, l'Afrique, la RDC en particulier, abrite des réserves considérables, en tout cas des minéraux, essentiels pour la technologie à faible émission de carbone, comme le cobalt et j'en passe, manganèse, offrant alors des opportunités de croissance économique et de développement. Où vont, d'après cette jeunesse, cette question que ces jeunes se posent chaque jour, mais pose cette question, moi j'ai dit, ben, je ne suis pas un expert en tout cas, où vont les ressources minérales africaines? Comment les pays africains peuvent-ils s'assurer que leurs ressources minérales ne sont pas seulement extraites, mais aussi transformées localement pour générer de valeur à leurs économies différentes?
Alors ce que je disais, c'est un petit bon point qui est soulevé par cette jeunesse qui est aussi inquiète pour son futur. Quand on voit l'ensemble des ressources que dispose la RDC et puis le continent africain, et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers de l'économie de plus en plus inclusive, dans un premier temps. Hein, parce que quand on a une économie qui est inclusive, c'est-à-dire qu'on va avoir de la transformation des matières premières au niveau local, ça va attirer aussi des entreprises en fait étrangères qui vont venir s'installer. Et je pense qu'il faut que l'Afrique, notamment la RDC, s'inspire du modèle asiatique, notamment la Chine, d'il y a 30 ou 40 ans. À l'époque, quand une entreprise étrangère venait investir en Chine, ça se faisait dans le cadre de joint venture, avec ce partage effectivement de compétences. Hein, donc il y a effectivement ce transfert de compétences entre les entreprises étrangères et puis la population locale. Et puis à ça, il faut mettre en place des politiques d'éducation et de formation, notamment comme ce qui est fait en Allemagne, où les instituts de la statistique arrivent à déterminer quels sont les secteurs stratégiques qui seront importants et pour lesquels on va manquer de main-d'œuvre. Donc du coup, il faut adosser ces secteurs effectivement stratégiques à cette main-d'œuvre et de façon à les rendre qualifiés. Et donc tout ça, en fait, va contribuer, si vous voulez, à ce que les ressources du pays, comme la RDC notamment, soient, un, transformées, extraites localement, transformées localement et exportées. Et ce que je disais à un collègue, je sors d'un voyage en Chine, on a vu dernièrement que la Chine a décidé d'investir massivement sur le continent avec une enveloppe dans les trois prochaines années qui sera d'environ 50 milliards de dollars américains. Donc c'est un chiffre qui est assez important. Et je disais que bon, c'est très bien, mais il faut prendre effectivement toute mesure de ce chiffre, hein, puisque la moitié effectivement de cette somme sera allouée à des prêts directs vers les États africains. Donc ça c'est un point qui est important. Et secondo, par rapport à ça, l'Afrique doit, pour moi, faire attention pour ne pas basculer en fait d'une ancienne tutelle vers une ancienne tutelle, vers une nouvelle tutelle avec la Chine. Donc l'Afrique doit rester maître effectivement de ses ressources naturelles.
Parce que j'en ai peur aussi. Hein, ça fait peur de cette.
Exactement. Et puis il faut rééquilibrer la balance commerciale entre l'Afrique et l'Asie, et la Chine notamment, qui aujourd'hui est déficitaire puisque on importe beaucoup plus les produits venus d'Asie et de Chine notamment qu'on exporte. Bon, hormis les minerais effectivement qui sont stratégiques. Donc aujourd'hui il y a un équilibre qui n'est pas encore trouvé. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et sera même primordial pour nos économies, qui est une inclusivité, qui est de la transformation de nos richesses du sous-sol avant d'être exportées vers ces pays, puisqu'elles auront plus de valeur ajoutée et automatiquement les gouvernements vont pouvoir bénéficier de ces recettes.
Vous parlez de la Chine, vous y étiez, vous revenez d'ailleurs de la Chine aussi. En parlant de ce meeting ou cette réunion avec les chefs d'État africains et la Chine, avez-vous espoir que cette fois-ci, au moins, ça va aller pour l'Afrique? Certains sont posés cette question.
Non, mais ce que je dirais par rapport à ça, c'est il faut que l'Afrique ait une vraie prise de conscience aujourd'hui.
Oui, c'est d'abord la prise de conscience.
Du poids qu'il a aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique. Ouais. On voit que les ressources sont importantes, que la transition écologique mondiale passe inéluctablement par les ressources matières, les ressources premières, du continent africain. Ouais. Donc aujourd'hui, l'Afrique a un vrai poids, un vrai rôle à jouer. Et ça commence à se faire ressentir, puisque on voit même qu'aujourd'hui, l'Amérique et les États-Unis militent également pour que l'Afrique ait une place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça, c'est très important. Donc on voit que l'Afrique a un rôle majeur maintenant. Il faut que les gouvernements puissent profiter de cette aubaine, quelque part, aujourd'hui, de façon à pouvoir mettre en place des politiques à la fois structurelles, d'assainissement des finances publiques, d'attraction des investissements directs étrangers pour pouvoir justement qu'il y ait un bénéfice en fait au travers de l'économie, des populations et de cette jeunesse dont on parle si souvent.
Exactement. On a parlé, enfin, la raison pour laquelle vous êtes là aussi, si toutes ces réunions qui se passent à FMI, Banque mondiale, tout le monde se rencontre ici à Washington. Quels sont les thèmes principaux de cette année, hein?
Alors, les thèmes principaux et sur lesquels moi j'ai eu effectivement à participer vont tourner effectivement du contexte des conflits mondiaux aujourd'hui et quels sont les impacts au niveau de l'économie. Moi qui est du secteur bancaire, on voit qu'il y a des impacts forts quand on voit les conflits qu'on a en Ukraine, au Moyen-Orient, à l'est du Congo notamment. Ça impacte forcément les marchés mondiaux.
Exactement.
Et donc du coup, il y a une certaine frilosité de la part des investisseurs un peu partout. Donc ce qui fait que ces réunions annuelles du FMI sont très importantes, parce qu'elles permettent effectivement de dresser un bilan, de donner aussi un cadre pour les actions qui seront amenées à conduire dans les années à venir. Et nous qui intervenons pour accompagner les banques, notamment dans toutes les problématiques de régulation au niveau de la finance, c'est important puisque nous évaluons aussi le risque au travers de toutes les opérations, au travers des expositions dans lesquelles les banques sont engagées. Et surtout, l'objectif, c'est de pouvoir lutter ou anticiper le plus possible le risque systémique qui est aujourd'hui un facteur important.
Et comment vous comptez le faire?
Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les banques, par exemple, au niveau européen, ont mis en place ce qu'on peut appeler des boucliers ou des pare-feux pour justement anticiper le risque systémique. Donc il y a eu des accords en fait du comité de Bâle qui ont été mis en place il y a maintenant une vingtaine d'années. Ces accords continuent à évoluer. Nous sommes aujourd'hui au niveau des réformes de Bâle 4 aujourd'hui. Donc nous accompagnons les banques dans l'implémentation en fait des solutions de Bâle 4 pour éviter ce risque systémique. Quand on voit que ces 20 dernières années, on a été très confrontés à ces risques avec la crise qui est eue, qui est partie des États-Unis, et la crise des lettres grecques notamment, la crise Covid dernièrement, et puis les conflits aujourd'hui qui sont présents. Donc aujourd'hui, les banques ont tout intérêt à participer, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, à ces conférences annuelles, pour comprendre quels sont à la fois les enjeux économiques, mais aussi géopolitiques, et adapter effectivement à la politique de risque pour éviter cette notion de systémisation au niveau des banques.
De banque. Quels sont les challenges ou les difficultés que ce pays, le pays développé, enfin en voie de développement, pour avoir accès au fonds, le fonds FMI ou Banque mondiale, et comment ils peuvent procéder?
Alors ça, c'est un vrai challenge.
Ouais.
On regarde notamment les décisions qui avaient été prises à l'époque par rapport au décision de Copenhague, donc au niveau de tout ce qui est transition énergétique. Donc on a vu que les pays industrialisés avaient promis d'investir massivement en fait dans les pays en voie de développement, et ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y a aujourd'hui ces réunions de la Banque mondiale et du FMI en amont de la prochaine COP29 qui va avoir lieu prochainement. L'idée aussi, c'est de pouvoir de répartir équitablement en fait ces financements. On parle, alors qu'on a parlé effectivement de tout ce qui est droit de tirage spéciaux qui aujourd'hui ne bénéficie qu'aux pays industrialisés. Donc il faut rétablir en fait cet équilibre au niveau de ces DTS et voir comment les pays africains vont pouvoir bénéficier au maximum des financements climatiques. Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, je pense, au niveau mondial. Et les pays africains, dont la RDC, sont très en attente des nouvelles réformes qui vont sortir.
Très important. Comment pensez-vous qu'il faut assurer l'inclusivité et les bénéfices même pour le pays à faible revenu dans les solutions de développement global?
Alors, pour ça, comme je le disais, donc les gouvernements doivent mettre en place des politiques structurelles dans le premier temps, plus de transparence dans la vie publique, faire des investissements massifs au niveau du numérique pour que tous ces échanges, effectivement, de flux soient pistés, audités, mettre en place aussi des organes de contrôle, de régulation, comme c'est fait
la
corruption est là, mais elle n'est pas propre qu'en Afrique. La corruption existe depuis longtemps. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté réelle de pouvoir l'éradiquer. Et moi, je prends souvent l'exemple d'un pays comme Singapour, qui était aussi très corrompu. Ouais. Et Lee Kuan Yew, le fondateur, a une politique, si vous voulez, au regard de ça, assez intransigeante, qui a conduit Singapour aujourd'hui à être un des fleurons aujourd'hui de l'économie mondiale. Parce que c'était un niveau de tolérance zéro. Donc il faut qu'il y ait une vraie vision,
une vraie
volonté politique.
Leadership aussi, ça va, c'est
comment
un bon leadership.
Un bon leadership, une vision, et puis une projection pour les jeunes générations qui vont venir dans les prochaines années. Mmh. Et c'est ce qui accompagnera le changement en fait, du continent et de l'Afrique. Et quand comme vous le voyez, l'Afrique a pas mal changé. On voit qu'il y a cette jeunesse aujourd'hui africaine qui, par rapport à avant, a plus accès à l'information, s'identifie de plus en plus aux leaders panafricanistes. Ils reconnaissent Cheikh Anta Diop, Ruben Mniove, Patrice Lumumba, même pour lequel la RDC.
Ouais.
Et donc, du coup, ils veulent qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant, win-win, comme vous dites ici aux États-Unis, avec les pays qui voudront faire du business, avec les pays africains.
Ouais.
Donc, on n'est plus dans ce rapport d'antan.
Ouais. Hein,
il faut aller maintenant sur du partenariat win-win, en fait.
Ouais. C'est tout change aujourd'hui. Alors, si on doit retenir les points clés des réunions annuelles et leur impact potentiel sur les futurs efforts de développement, que sont-ils ?
Alors, ce que je dirais, c'est que dans un premier temps, c'est qu'il faut qu'il y ait un meilleur accompagnement, un rééquilibre effectivement des solutions de financement. Là, on parle notamment sur la partie finance climatique qui est important. Et puis, ces réunions sont aussi un moyen de réunir tous les pays du monde qui sont présents aujourd'hui. Et je pense que le contexte de paix doit aider à ce que l'économie mondiale reparte, en fait, parce qu'on voit que les conflits, effectivement, au niveau mondial, freinent considérablement les échanges. Et si je cite notamment le conflit en Ukraine, notamment, a eu un impact très fort au niveau des matières premières agricoles, au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est un point qui est dommage. On a vu, effectivement, les prix des matières premières, enfin, les prix des marchandises, en fait, augmenter considérablement. Et c'est un peu dommage. Et un point qu'on n'a peut-être pas survolé, il y a une matière première qui est aussi très importante, qui n'est pas négligée en Afrique, c'est l'agriculture. Et si on prend le cas de la RDC, qui, elle seule, détient 800 000 km² de terres arables, quand on voit la superficie de l'Ukraine, qui est de 600 000 km², on voit qu'il y a un vrai potentiel. Et aujourd'hui, l'agriculture en RDC est exploitée à hauteur que de 10 ou 15% du PIB. Donc il y a un vrai effort à faire là-dessus. Il y a des solutions qui doivent être pensées, puisque les ressources minérales qu'on a aujourd'hui ne sont pas inépuisables. Donc il faut aussi anticiper et aller vers ce qu'on peut appeler une nouvelle source de revenus pour les continents.
Ce qui est possible. En tout cas, je rappelle que M. Junior Mbouyi, vous êtes... vous étiez notre invité, vous êtes un expert financier de renommée internationale. Merci pour le temps que vous nous avez accordé.
Merci
infiniment. Voilà, c'était.
Bien sûr, les amis, vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington, D.C. C'est votre commandant de bord, Roger Moutou. Merci beaucoup à vous si vous êtes en train de nous capter en ce moment. Et merci aux amis qui nous ont écrit, comme Youssouf Silla, qui nous écrit du Mali. Il dit, les États africains doivent conditionner les contrats miniers et à des exigences de transformation locale imposant que tout ou partie des ressources extraites soit transformée dans le pays d'origine. Merci infiniment à qui encore nous a écrit ici. C'est Amadou Ba qui nous écrit aussi du Sénégal, qui dit le développement d'une industrie locale de transformation des ressources minérales doit être accompagné d'une gouvernance transparente pour que les recettes générées bénéficient effectivement à l'économie nationale et aux communautés locales, insiste-t-il. Jean-Pierre Boussin nous écrit, Jean-Pierre Boussin nous écrit de Burkina Faso, nous dit l'Afrique doit miser sur l'industrialisation progressive en commençant par la transformation primaire des ressources comme le broyage ou la fusion des minéraux avant de passer à des étapes plus complexes. On écoute Yes You Can, c'est la chanson, bien sûr, la superbe chanson, la super belle voix de mon ami Keisha Sushiro.
So true, you and écoutez RM Show sur VOA Afrique.
Écoutez RM Show, une émission de Afrique en direct de Washington, la capitale américaine, bien sûr, comme chaque soir entre 20h et 21h temps universel. Merci aux amis qui ont appelé pour participer à notre sujet de la semaine. On dit merci à Fatoumata Diallo, à Joseph, merci infiniment à Amadou Ba du Sénégal qui dit que le développement d'une industrie locale de transformation des ressources minérales doit être accompagné d'une gouvernance transparente pour que les recettes générées bénéficient effectivement à l'économie nationale et aux communautés. Merci infiniment aux amis qui sont en train de nous capter à Lomé au Togo. Merci aux amis aussi qui nous captent en ce moment. À Nzéré Corée, c'est à Conakry, Guinée-Conakry. Effectivement, comme on vous l'avait dit, comme dans cette émission, nous avons toujours, toujours des invités. Dans cette émission, nous venons de recevoir ce soir nos partenaires, nos amis. Julie qui est avec nous, Simi qui est avec nous aussi. Et bien sûr, mon ami et partenaire in crime, Jimmy Niwa aussi avec nous. Jimmy, comment ça va hein?
Écoute, j'ai pas de casque, tu me dis
si... Je sais pas si tu as le micro. Voilà, voilà, là on t'entend bien. Voilà.
Je dis si on m'entend bien, mais en tout cas...
On a donné juste une casque pour Julie seulement, voilà.
C'est pas grave,
mais
c'est un grand jour, pareil que
ce soit là. Ah, ben oui, c'est un grand jour, c'est un grand jour. Pourquoi un grand jour?
Parce qu'on a nos collègues, comme tu as dit, oui. Sylvie et Julie Sekou de Kinshasa. Et moi, je les ai rencontrés la première fois, la fois où on était au Congo. Et c'était un énorme plaisir. Et on parlait comme ça de leur venue. On voulait vraiment qu'ils soient là et aujourd'hui, ils sont là. Heureusement qu'on a Daddy pour filmer et qu'on puisse garder tous ces souvenirs.
Ouais, clair.
Donc voilà, ils sont là et il fallait qu'on vienne te voir aussi pendant que... Voilà,
et, avant qu'on puisse parler à Julie et à Sylvie aussi, cette histoire n'a pas commencé ici.
Non.
Tu te rappelles, on était à Kinshasa.
Ouais. Hein? Avec un petit kwanga.
Avec un petit kwanga que les amis nous avaient offert ce jour-là. On n'a jamais oublié parce qu'on avait faim.
On avait faim. On avait fini tout l'argent.
Exactement. On n'avait plus rien. Et eux, Julie a eu pitié de nous. Sylvie a eu pitié de nous.
Ouais. Les pauvres amis.
Les pauvres, tous les amis. Qui encore était là? Il y avait tous les amis de B1.
Il y avait Henri, Dan.
Mouy.
Le petit jeune, là, Brandon.
Il y avait Brandon.
Voilà.
Henri Kabang aussi.
Voilà, exactement. Mais d'abord, avant d'abord de welcome Julie et Sylvie, d'abord, on doit applaudir pour Daddy quand même.
Ah, Daddy.
Ah non, si ce n'est pas Daddy, tu n'aurais pas le voir ici aujourd'hui. Le gars a souffert, mais toi là-bas, viens, on prend le bus numéro 7, voilà. On descend, oui.
C'est le gardien du temple.
Voilà.
Julie, c'est un grand plaisir. B1 dans VOA. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, c'est un honneur pour nous. D'autant plus que B1, c'est un très grand partenaire de la station Voice of America. Le sentiment.
C'est un plaisir très partagé, c'est clair.
Ouais.
Parce que bon, c'est vrai que RM Show, on reçoit souvent RM Show.
Exactement.
On parle et puis nous, on écoute.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, que nous-mêmes aussi, on soit là, ça fait un autre effet. Donc, on est à 10. Là, vraiment, je veux dire que vous êtes arrivés.
Fini, on est à 10.
Vous êtes à 10.
Après, la séquence de l'autre.
Ce sont les hamburgers qui vont aujourd'hui. Sylvie, comment ça va?
Ouais, ça va bien. Ouais. Moi, c'est Sylvie. Hein. Je suis Sylvie, je suis réalisateur à B1.
Ouais. Il ne faut pas se mentir, réalisateur, grand réalisateur.
Je suis grand réalisateur.
Ah ouais,
je suis
réalisateur. Mais, c'est ça, c'est comme ça. Les gens qui sont derrière la caméra.
Derrière la
quel
caméra.
Quel plaisir, Sylvie, d'être à Washington aujourd'hui.
C'est un immense plaisir d'être ici déjà parce que c'est ma première fois
ici
aux États-Unis.
Exactement.
En tout cas. C'est une belle vie.
Mais il fait un peu américain, je ne sais pas si
non,
il
a vu. Moi, je ne sais pas exactement qu'il fait américain. J'allais dire les deux.
Vous êtes vraiment rentrés dans le temps, hein.
Mais l'Amérique n'a pas
fait. Elle a fait New Yorkais.
À tout le monde.
Oui,
il fait. Je comprends maintenant pourquoi
on dit. C'est le pays de tout le monde.
Non, je comprends pourquoi on dit la RDC, c'est les États-Unis, l'Afrique.
Ah. Américain. Là, tu as tapé, c'est ça.
Maintenant, je comprends. Julie, alors qu'est-ce qui vous amène ici hein, pour les amis qui sont en train de nous capter partout en RDC, on nous capte aujourd'hui. Ah, ils savent que B1 est en VOA. Qu'est-ce qui vous amène ici?
Mais l'événement est mondial. Ah. C'est comme quelqu'un disait, il n'y a que toi qui n'es pas au courant. Ça ne va pas, non? On veut parler élections américaines.
Exactement.
Qui n'aimerait pas savoir ça va être qui le prochain président américain?
Ouais.
D'autant plus que celui qui dirige les États-Unis d'Amérique, il dirige le monde.
Ouais,
alors, il faut bien être là.
Et puis,
nous, ces derniers temps, en tant que Congo, on est bien cité par les candidats.
Tu as vu?
Alors, on vient surtout ça de près.
Moi, je commence à ça va chauffer. Ça va chauffer, il dit. On va dire, Dani, ici, c'est pas votre émission de télé, c'est radio. Tu peux te déplacer comme tu veux. Tu peux aller là-bas. Attention, c'est mon été en
plein. Sens-toi à l'aise.
Sens-toi à l'aise. Il dit, donc tu veux te déplacer pour bien montrer le visage de qu'elle est là. Mais Julie, c'est vrai que c'est vraiment un événement mondial et c'est vrai que d'ici deux semaines, nous serons vraiment au four et au moulin, nous tous journalistes partout dans le monde et évidemment B1 étant là, c'est vraiment un grand plaisir parce que avec votre grand réalisateur ici, Sylvie, vous allez beaucoup travailler. J'espère que vous avez déjà un plan.
Oui, on va beaucoup travailler. B1 n'attend que ça, nos téléspectateurs. auditeurs. Nos auditeurs n'attendent que ça parce que au-delà d'être cet événement mondial, mais il y a aussi des leçons à tirer.
Oui.
On est peut-être un pays, on nous appelle République démocratique, on est une jeune démocratie, on s'essaye. Nous ne sommes que à notre quatrième round, n'est-ce pas, électorale, alors que ici c'est vieux, l'organisation, la participation, les grands électeurs et tout ça, c'est des expériences à partager pour dire aux autres comment ça se passe. En République démocratique du Congo, par exemple, les élections coûtent énormément d'argent et cet argent-là ne sort que du gouvernement. Alors que,
ici, c'est
voilà,
c'est
des exemples, tout à fait. C'est des partages, c'est des exemples qu'il faut montrer aux autres. Pourquoi ne pas faire comme et avec et tout ça? Pourquoi ne pas manifester cette volonté de vouloir servir son pays à travers cette volonté-là? On met son expertise à contribution pour le bien-être de tous.
Effectivement. Effectivement. Ginny, je ne sais pas si tu as une question à poser à nous.
En fait, elle parlait tout à l'heure de certains propos. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment le Congo a reçu ces propos.
C'est posable comme question. Ah oui, c'est posable. C'est
Julie, il faut que tu me dises si c'est posable. Je sais pas. Oui, le Congo, en tant qu'individu, on est choqué.
Ouais, c'était choquant.
On veut bien comprendre parce que même nous-mêmes, on se dit, ah, David, attention, nous, on est prisonniers. On veut bien vérifier notre casier judiciaire. Est-ce qu'on serait passé par là et on aurait oublié? Alors, ça, c'est une chose. Mais on est quand même sidéré lorsque on voit que le politique, en principe, qui devrait nous défendre, vérifier, recadrer s'il faut. Apparemment, Feng n'est pas bien comprendre cette portée-là. Pourtant, ça peut jouer maintenant sur des individus parce qu'on ne déroule pas le tapis rouge pour tout Congolais. C'est peut-être des officiels et tout. Nous, on est chez nous, on est partenaires. Mais qu'en sera-t-il des autres Congolais, si tu as un lambda tout court, si jamais ils sont aussi caricaturés comme ça?
Ça pourrait poser un problème.
Ça pourrait, ça c'est une très bonne question aussi, on doit le dire. Et c'est vrai qu'il y aura beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup à. J'allais oublier, mais vous avez vu de l'autre côté Michel Joseph, vous avez vu de l'autre côté, c'est Nelson qui est à gauche, notre ingénieur de son, Michel qui est notre réalisatrice. Il y a aussi la personne qui produit la vidéo, c'est Hélène qui est dans une autre salle. Ce sont nos professionnels, on doit les applaudir.
On doit les applaudir.
On doit les applaudir.
Michel qui nous apprend l'anglais.
C'est elle qui nous apprend l'anglais tous. Moi je ne venais pas encore dans ce pays, j'écoutais Michel Joseph. Je blague, j'ai l'âge de Michel.
Finalement, on retient quoi?
Non, mais alors, la question qu'on doit poser ici, c'est votre impression quand vous arrivez devant la VOA maintenant. Ça doit être quand même émotionnel.
Oui.
Parce que vous reprenez nos émissions. Vous reprenez nos émissions. Vous connaissez que votre ami Roger Moutou est là-dedans.
Ah ouais.
La petite Ginny Niwa.
Elle est là-bas.
Ça me dérange pas.
On a pris qu'on est bêtis. Ah oui. Elle ne grandit jamais. C'est bon.
Bon, si on ne cherche pas à coller la petite, ça, c'est bon. Ça, c'est ça, c'est autre chose. Sinon, c'est là où ça va tout gâter.
C'est grandiose, la VOA. Mais déjà, lorsqu'on sort déjà du métro, on est presque arrivé. J'ai dit, ah, cette proximité-là est importante, hein, c'est intéressant. Et puis, je dis, oh, mais c'est vrai que c'est grand. Et puis, on me dit, mais tu dois bien passer par la sécurité. J'ai dit, ah oui, je me rappelle qu'on y est quand même, dans un bâtiment fédéral.
Attends, il ne faut pas faire comme si vous ne faites pas passer à la sécurité. Alors ce qui est plus fort, c'est que même nous-mêmes qui travaillons ici. Il n'y a pas
de privilège.
Mais c'est des maisons de sécurité, ça va. D'autant plus que ça sécurise tout le monde.
Exactement. Tout le monde sécurisé et tout ça.
C'est bien.
Et quand vous êtes arrivé, je ne sais pas si on vous a dit, mais dans le temps, on avait même les deux immeubles là dehors. Et c'est tellement. Non, on a vraiment beaucoup à se parler, beaucoup à partager, beaucoup d'émissions à faire ensemble. Ensemble, ça verra. Je vois Sylvie est prêt.
Elle est prêt.
Fais parler Sylvie parce que je sais qu'il ne veut pas parler. Moi, je dis, c'est le début d'une nouvelle carrière. Il est le début d'une nouvelle
carrière. Je suis juste derrière la caméra.
La prophétesse.
J'ai le temps pour toi. J'ai besoin de quelques questions, là. Là, je suis là. Une question. Ok.
Hey, Adobe. Hey, do you speak English?
Yes, I do. Non, je pense que Daddy a fait un bon boulot.
English for Africa.
Tu as entendu comment elle a répondu?
Avec une voix
spécifique. C'est en anglais, non?
I do. Non. Mais ça, je suis sûr. Ginny, je suis sûr que et Julie et Sylvie. English for Africa à l'ambassade, ils sont allés apprendre. Rapidement. Ben, en tout cas, merci d'être là. On voulait vraiment vous avoir à chaud. On savait même pas que vous étiez ici.
Nous, ça nous fait énormément plaisir.
On va continuer bien ça. Nous, on commence à atterrir. Merci à Sylvie aussi. Merci à Julie. Merci à toi, Julie.
Merci encore à
Daddy. Merci à Hélène. Merci à Nelson. Michel Joseph, thank you so much. Et merci à vous qui êtes restés à l'écoute de RM Show. On se retrouve la semaine prochaine, 5 jours sur 7, dans RM Show à live en direct, bien sûr avec un nouveau sujet. Je ne peux que vous dire, God bless, East Africa. Yeah.